Normalement, vous savez que le premier mardi de chaque mois, on se retrouve aussi chez les Bryans ou ailleurs pour une soirée de louanges. Et exceptionnellement, ce ne sera pas ce mardi, ce sera mercredi. Qui avait prévu d'être là mardi chez les Bryans? Yes, il y a quelques personnes, c'est bien. Donc mercredi soir. Hein, mercredi soir, et il est possible aussi, si jamais vous avez un doute, vous pouvez venir me voir ou venir voir Sean et Agnès en fin de culte. Et il y a possibilité de suivre en ligne. Il y a, vous savez, la technologie et Sean, c'est vraiment un seul mot. Et donc Sean, il met tout ça en ligne, donc il y a possibilité de suivre. Il paraît qu'il y a le même esprit quand ils sont sur place ou quand ils sont en ligne. Ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub qui parle du double effet qui se coule. Vous savez, ce bonbon qui est frais en bouche, mais qui au final est fort, il y a un deuxième effet qui se coule. J'ai l'impression que ça ne parle pas trop aux jeunes au fond, là, parce que ça réagit pas trop. Les jeunes, le principe du shampoing deux en un, ça va? Vous le tenez? Ok. Ça va être un peu le principe de ce message ce matin. Il y a un double effet, deux en un. Et pour cela, on va aller dans acte 2. En un. On a deux sujets à évoquer ce matin. J'avais cette mission-là de vous parler de deux sujets et j'ai vu à quel point ils étaient profondément liés et je trouve que c'est juste incroyable comment la Bible est faite. C'est fou qu'on puisse s'étonner encore de voir à quel point la parole de Dieu est parfaite. Acte 2, on va parler de la Pentecôte et puis on va déboucher derrière sur un sujet qui est important pour nous ce matin. Et je voudrais que vous soyez attentifs vraiment jusqu'à la fin. Je vais être assez rapide, je pense, ce matin. Donc, on a les disciples hein, qui sont rassemblés à Jérusalem parce que Jésus leur a demandé de rester là. Et ils attendent le déversement de l'Esprit. Ils attendent ce qui avait été promis. Ils attendent ce qui doit être donné. Et on commence à lire. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous tous dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. » J'ai tout lu. « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement. Et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Alors, je ne sais pas comment tout le monde l'a compris, mais il se trouve que c'est comme ça. « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Donc, ce n'était pas le moment d'être ivre. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Nous sommes dans ces temps là où l'Esprit est déversé en abondance sur toute chair. Oui, nous sommes dans ces temps maintenant où les fils et les filles prophétisent, où les jeunes gens ont des visions, où les vieillards ont des songes. Est-ce qu'on est dans l'étonnement que Dieu agisse au milieu de nous, Ou est-ce qu'on est dans l'attente que Dieu agisse au milieu de nous avec puissance, avec diversité, dans toute la manière multicolore dans laquelle Dieu il agit. Et j'aimerais vraiment nous inviter, alors qu'on parle de Pentecôte aujourd'hui, à nous attendre à ça, à nous attendre à ce que tous, les uns et les autres, je veux dire, ce passage, il est totalement inclusif. Il n'y a personne qui est laissé de côté. On a des superlatifs qui disent que tous sont remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient là et qui attendaient. Et est-ce que ce matin, et est-ce que ceux en ligne qui écouteront ce message, on est dans l'attente de voir des choses se passer, ou est-ce qu'on est dans l'attente que le Saint-Esprit soit déversé aussi sur nous, sur notre propre vie, pour que le Seigneur nous utilise comme il a choisi de le faire, comme il a envie de le faire, comme il a prévu de le faire. Je suis certain qu'il n'y a aucun des disciples là qui avait prévu que le déversement de l'Esprit les conduirait à parler dans des langues inconnues et qu'il s'adresserait à des populations venues de toute la terre. Je suis certain qu'aucun n'avait préparé ce plan-là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et pour que ça se passe, ils ont juste été obéissants à la parole de Jésus qui leur a dit « Attendez à Jérusalem, restez ensemble et attendez. Moi, je m'en vais, mais je vous promets un consolateur qui vient, mon esprit descendu du ciel. » Et Jésus ne ment pas, les amis. Jésus, il ne ment pas. Et donc, c'est ce qui se passe. Et ce moment de la Pentecôte, il faut vraiment qu'on le voit comme un basculement dans l'histoire. Hein, il y a un basculement dans l'histoire quand Jésus-Christ, il meurt et qu'il est ressuscité et qu'il monte au ciel auprès de son Père. C'est un basculement de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il introduit une alliance nouvelle entre Dieu et sa création au travers de Jésus. C'est un basculement total de l'histoire. Mais il y a un deuxième, je ne peux pas dire que c'est un deuxième basculement, mais on va dire qu'il y a un ricochet à ce premier basculement qui est là aussi un basculement incroyable, qui est que Dieu, par son esprit, vient demeurer en chacun de nous. Et qu'il choisit de le faire. Et que ça ne dépend pas à aucun moment de notre niveau de piété, de notre niveau de sainteté, du nombre d'heures qu'on a passées dans la prière, de la justesse de notre voix dans le temps de louange, de notre connaissance de la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça dépend de « est-ce que je suis là et que j'attends ?» avec espoir que Dieu vienne déverser son esprit sur moi pour les œuvres que lui a préparées d'avance. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on attend ça ? Est-ce que ce message de la Pentecôte, il nous rappelle ça chaque année ? À quel point on n'est pas exclu du plan de Dieu ? Les uns et les autres, les petits, les grands, les maigres, les gros, toutes les couleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui peut nous disqualifier, si ce n'est de ne pas reconnaître qui est Christ, effectivement. Mais pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune disqualification pour que Dieu nous utilise dans son plan. Il y a des embûches, nos péchés vont être des embûches, nos péchés vont nous faire tomber, nos péchés vont nous empêcher de rentrer, effectivement, dans certaines choses, ça, oui, bien sûr, mais rien ne nous disqualifie du fait que le Saint-Esprit est donné sur chacun et que Dieu puisse accomplir son œuvre au travers de nous. Alors, attendons avec espérance. Amen. Ouais, merci. C'était spontané en plus, waouh. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ce passage quand l'Esprit est déversé ? L'Esprit est déversé, ils se mettent à parler dans toutes les langues, ça fait beaucoup de bruit, il y a eu des tremblements. Et donc, il y a des gens là, dans Jérusalem, qui accourent et qui sont stupéfaits de comprendre ce qui est dit, chacun dans sa propre langue. Et le résultat de tout ça, c'est quoi ? Ils pensent qu'ils sont ivres. Pierre prend la parole et leur dit « Non, on en a lu un début tout à l'heure. » Et puis, je vais sauter un peu plus loin pour vous lire la suite, à partir du verset 37. « Après avoir entendu ce discours, » donc le discours de Pierre qui a annoncé l'évangile, clairement, Pierre, il a annoncé, mais c'est ce qui était dit, et il a refait l'histoire pour leur dire « Et voilà !» Et ce Jésus qui a été crucifié, nous l'avons vu, et c'est lui que nous vous annonçons aujourd'hui, etc., etc. Il annonce l'évangile, clairement. Donc après avoir entendu le discours de Pierre, après avoir entendu l'évangile, on va dire, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Wow.
Et en ce jour-là, il y eut une grande joie. C'est moi qui le rajoute ça. Mais je pense qu'il y eut une très, très grande joie en ce jour-là. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 5 âmes. C'est bien, il y en a qui connaissent là. Et le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. Si ça nous paraît fou, invraisemblable, c'est que ça vient taper à la porte de notre foi. Si ça nous paraît impossible à reproduire aujourd'hui, c'est que ça vient taper à la porte de notre foi. Moi, je veux avoir la foi pour 3000 âmes sauvées qui n'ont plus qu'une idée en tête, c'est louer la gloire de Dieu, de leur Sauveur et Créateur, de leur Seigneur, lui consacrer leur vie et aller sur toute la terre faire des nations, des disciples. Moi, je veux ça. Seigneur, c'est ce que je veux pour notre assemblée. Seigneur nous a souvent parlé de moisson et de moisson d'âme et il est en train de nous le rappeler de plus en plus fréquemment par des paroles prophétiques au niveau de cette église. Moi, je suis plein de foi. Mais ça ne se fera pas sans le fait de dire, Seigneur, que ton esprit soit déversé sur moi, s'il te plaît, Seigneur, pour que je me lève et que j'annonce l'évangile avec autorité, avec puissance, avec l'onction que toi, tu donnes. Est-ce que vous priez pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées et qui soient ajoutées à l'Église ? J'espère. J'espère qu'on prie ça, qu'on prie tous ça. Seigneur, que dans ce lieu où on est planté, que dans cette ville dans laquelle on est, là, aujourd'hui, il y ait des âmes sauvées. Que ce village de Marguerite, il soit gagné pour toi, Seigneur. Que cette région de Nîmes, elle soit gagnée pour toi, Seigneur. Que le Gard, il soit gagné pour toi, Seigneur. Que notre pays soit gagné à la cause de ton évangile, Seigneur. Que les nations reconnaissent que tu es Dieu. Mais ce n'est pas des incantations. On ne peut pas ordonner à Dieu d'agir. Et ce n'est pas des incantations. « Seigneur, que toute la terre soit sauvée !» Il te dira « Ok, lève-toi. » Tout à fait. Commence par te lever. Commence par ouvrir ta bouche. Commence par faire du bien. Commence par prendre soin de celui qui n'a rien. Commence par annoncer l'évangile en toute occasion. En toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, nous dit la parole. Alors j'espère que moi aussi je toque à la porte de votre foi ce matin, de dire « Seigneur, on a besoin de ton esprit. On a besoin que tu nous bouges. On a besoin d'avoir ce coup de pied aux fesses qui fait sortir du bateau et qui fait découvrir qu'on est capable de marcher sur l'eau. Et où on sait que même s'il y a un doute et qu'on plouffe dans l'eau, la main de Jésus est toujours là pour nous saisir et nous remettre d'aplomb. Mais il y a des pas de foi dans nos vies à faire et ils ne se font pas sans une révélation du Saint-Esprit sur quels sont les pas de foi qu'on doit faire. L'idée n'est pas d'avoir juste une foi obéissante, j'ai la foi, et de faire une espèce de méthode couée de la foi, de j'ai des pas de foi à faire dans ma vie, il faut que je fasse des pas de foi. Ça commence par le fait juste d'ouvrir les mains et d'ouvrir le cœur et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton esprit dans ma vie » pour que tu viennes révéler ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, pour que tu viennes me parler sur la volonté que tu as pour moi, dans la manière de te servir, dans ce que tu mets devant moi aujourd'hui, de manière complètement simple, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux dans la foi. Dieu a envie de nous utiliser pour que, ce jour-là, le nombre des disciples augmente de 3000 âmes. Quand est-ce qu'on réserve Paloma, les amis? L'année prochaine? Et à la fin de ce chapitre, de Actes 2, au verset 46 et 47, on continue de voir cette même dynamique. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et plus on vient devant Dieu, plus on cherche sa présence, plus Dieu va nous pousser à aller témoigner. Il va nous pousser dehors. Et c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne en fait ce matin, qu'on touche un peu du doigt, c'est quelle est la conséquence dans l'histoire du déversement du Saint-Esprit sur tous. De dire le Saint-Esprit, il n'est plus seulement réservé pour le roi qui était oint, pour les prophètes, pour les sacrificateurs, les lévites. Il n'était pas juste réservé pour une portion, il est déversé sur tous. Mais quelle est la conséquence finalement première, le basculement de l'histoire qu'on observe au travers de ce déversement de l'Esprit? C'est la mission. C'est la mission. Ne cherchons pas premièrement l'action du Saint-Esprit au milieu de nous sous la forme des dons, des prodiges, etc. Tout ça, ce sont des moyens de nous édifier, des moyens de grandir, des moyens de témoigner de la puissance de Dieu, des moyens de connaître des choses qui sont cachées et que le Seigneur et que le Saint-Esprit révèlent. Mais tout ça est dans une dimension de la mission. La mission. Annoncer l'Évangile sur toute la terre. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Et c'est ce que vous allez trouver à peu près dans tout le Nouveau Testament. La dimension des dons qui sont déversés le sont toujours en vue de l'édification du corps et en vue du témoignage, pour ceux qui ne croient pas, de la puissance de Dieu qui agit dans le naturel de manière complètement surnaturelle. Les guérisons, les miracles, les prodiges qui sont opérés dans la parole de Dieu sont un temps propice où Dieu vient bousculer les cœurs qui deviennent prêts à ce que la parole de Dieu et à ce que l'Évangile soit planté, semé. Et tout ce que fait l'Esprit va dans un seul sens. La gloire du Père, la gloire du Fils, et que plus connaissent. Et donc, ne limitons pas la vie de l'Esprit, ne limitons pas ce que Dieu a fait à la Pentecôte, s'il vous plaît, les amis, au simple fait de prophétiser au milieu de nous, au simple fait de parler en langue, au simple fait d'opérer des guérisons, d'opérer des prodiges, d'avoir un don de foi, de tout ce que le Saint-Esprit peut nous donner qui est juste, mais excellent. Mais saisissons que toutes ces choses-là, elles servent à nous mettre en marche. Elles servent à ce qu'on se lève et à ce qu'on court dans la mission que le Seigneur nous donne en tant qu'Église et nous donne individuellement. Vous l'avez le point? C'est bon? Oui? Amen. Merci pour votre spontanéité. Le déversement de l'Esprit à la Pentecôte, il a pour conséquence, juste le jour de la Pentecôte, que l'église de Jérusalem grandit de 3000 âmes. Et puis on lit à la suite que dans la dynamique dans laquelle ils ont continué, le Seigneur tous les jours sauvait et ajoutait. Et donc on a un contexte de l'église de Jérusalem là qui est en croissance. On a une église qui grandit de manière... Voilà. Est-ce que l'objectif c'est que l'église grandisse? Non. L'objectif c'est que la communauté des croyants grandissent. Pourquoi? Parce que eux rendent gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on doit voir au travers de cette dimension-là. Mais si on s'intéresse quand même vraiment à la dimension locale de l'église de Jérusalem, on a une église qui a grandi en un jour de 3000 âmes. Et bien moi, ça me pose une question que je trouve légitime. C'est comment on gère? Comment on gère en tant que communauté 3000 âmes de plus qui sont sauvées? Comment on gère une communauté qui grandit comme ça? Ça pose une autre question que je trouve aussi légitime. Est-ce que le leadership dans l'Église, il est nécessaire ? Est-ce que l'Église, il est nécessaire que l'Église soit gouvernée ? Dans le bon sens du mot gouverner. Pas selon le modèle qu'on peut voir forcément dans le monde, dans tous les pays, même s'il y a de bons principes. Mais est-ce qu'il est nécessaire pour l'Église d'être gouvernée ? Parce que, honnêtement, aujourd'hui, on trouve plein de modèles, dont des modèles qui se passent complètement d'une dimension de leadership pratiquée dans l'Église. On a des modèles d'Église qui sont souvent d'ailleurs des modèles de maison, qui sont congrégationalistes, où en fait il y a une forme d'équité, d'égalité, de décision prise ensemble en commun, et où il n'y a aucune gouvernance particulière de l'Église. Nous, on préfère le terme architecture que gouvernance. Ça met plus l'emphase sur le bâtiment vivant qu'on est ensemble plutôt que juste sur le gouvernement qui a une vision qui, je trouve, est faussée aujourd'hui. Donc on parlera plutôt d'architecture que de gouvernement. Mais on trouve des modèles d'église dans lesquels il n'y a pas de personne en responsabilité, il n'y a pas de leader. Et ils sont très contents avec ça. La question, c'est est-ce que c'est biblique ? Et donc sur cette question légitime que je voulais poser sur est-ce que l'Église doit être gouvernée, la réponse elle est simple. Oui. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben parce que c'est l'Église de Jésus-Christ, déjà. C'est l'Église de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus règne et qu'il est le chef de son Église. Donc déjà, de base, oui, il y a un leader sur l'Église, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucune autre tête que lui dans l'Église. Il ne devrait y en avoir aucune autre. C'est lui le chef de tout et nous sommes tous à la suite de Christ. Vraiment, en tant que communauté locale, notre pasteur principal ici, c'est Jésus. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous enseignons et c'est ça que nous enseignerons encore. Oui, nous suivons Christ, comme le dit notre vision, suivre Jésus tous les jours. Voilà, c'est lui le chef. Donc il est le gouverneur de l'Église, il est celui qui est le chef, le roi de l'Église. Et l'Église, ce n'est pas une construction humaine, d'accord ? Elle a été pensée par Jésus, elle a été instaurée par Jésus, elle appartient à Jésus, elle est sous son autorité. Et la Bible nous dit qu'elle lui sert de corps représentatif. Il y a Jonathan Lehman qui dit que l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église, dans tout ce qu'elle est. Et dans son expression locale, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et c'est Jésus qui décide comment fonctionne cette ambassade. Et donc, pour savoir à quoi doit ressembler l'Église, on doit se tourner vers Dieu lui-même, et donc vers sa parole. Parce que Christ est la vérité, Christ est la parole. Jean 1. On veut voir comment Jésus voit les choses ? Lisons la parole. On veut savoir à quoi ressemble l'Église ? Lisons la parole. On veut savoir ce que fait l'Esprit au travers de l'Église, au travers de toute l'histoire, même dans la première alliance ? Lisons dans la parole. C'est la vérité. Et voici ce que nous montre la Bible. Elle nous dit que chaque Église qui est mentionnée dans le Nouveau Testament, elle a en son sein des leaders. C'est aussi simple que ça. Le modèle tel qu'il est présenté en la parole est toujours accompagné d'une dimension de leadership dans l'Église. L'Église de Jérusalem, dont on vient de parler, elle est dirigée par des apôtres, par des anciens et par des diacres. Dans Actes 15, 2, vous pouvez le lire, c'est assez riche de voir ce mix qu'il y a entre ces trois fonctions-là. Actes 6, 3 et 4 aussi. Et Paul, il implante des églises, et quand il implante des églises, il s'assure toujours de mettre en place des leaders dans chacune d'elles. Il le fait des fois lui-même, dans Acte 14, ou alors il envoie un délégué digne de confiance, et c'est ce qu'on voit avec Tite, où il demande à Tite d'aller implanter des leaders dans les églises dans lesquelles il l'envoie. Et tout le Nouveau Testament est écrit exclusivement par des leaders d'église, pas par des gens autres ou déconnectés de la dimension locale de la communauté. Ce sont tous des anciens, des apôtres dans les églises locales qui ont été implantés à la suite du mouvement qui est parti de Jésus-Christ. « Et la première pierre que Jésus y pose dans la préparation de l'Église, c'est la formation des futurs leaders. Et on le voit dès la fin de son ministère. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il prend avec lui 12. Il les enseigne, il les forme, et ensuite il leur dit « Allez ». Et Jésus nous enseigne déjà ce modèle de prendre, de former une équipe et d'envoyer avec autorité. De dire « Allez » et « Allez implanter là où vous êtes ». Allez faire, bâtissez des communautés locales et multipliez, faites d'autres leaders. C'est tout ce qu'on voit ensuite dans toute la dimension, de tout le Nouveau Testament. On voit en permanence les équipes en train de se multiplier, en train de s'encourager. On voit les responsables de certaines églises qui sont envoyés sur d'autres. On voit les apôtres qui naviguent entre toutes les églises. On voit juste des choses incroyables qui se font autrement que juste une dimension de congrégationalisation des églises locales sans aucun responsable, sans aucun leader. Et pourquoi Jésus il a pris avec lui des disciples ? Eh bien, c'est parce qu'il voulait que son église ait des apôtres qui seraient capables à leur tour de mettre en place des anciens, qui pourraient eux aussi mettre en place des diacres, pour que toute son église soit dirigée par des leaders qui soient appelés et reconnus. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que quand on parle de responsables, quand on parle de leaders au milieu de nous, on parle de personnes qui sont appelées par le Seigneur pour ce service-là et qui sont reconnues par l'Église pour ce service-là. Et c'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Parce que le leadership, il ne s'impose pas. Jésus, il s'est imposé à personne. Jésus, il a dit « Suis-moi ». Mais ceux qui ne voulaient pas le suivre ne l'ont pas suivi. Et le leadership ne s'impose pas. Et donc, on cherche au milieu de nous des gens qui sont appelés par le Seigneur, dont on discerne clairement qu'il y a un appel, on discerne clairement qu'il y a des dons qui s'expriment, on discerne clairement qu'il y a un esprit de serviteur et non pas un esprit de chef. Et on reconnaît ces choses-là en tant qu'Église. Et il y a une richesse à reconnaître quand Dieu appelle. Et c'est ce qu'on a fait quand on a nommé des anciens depuis toutes ces années où on a des anciens qui fonctionnent dans cette Église. Merci pour la manière dont vous avez reconnu et accepté que nous soyons anciens dans cette Église, au service de toute l'Église. Hein, on fonctionne en pyramide inversée. Hein. Les anciens sont tout en bas, les anciens ne sont pas au-dessus, on n'est pas l'évêché de l'Église, on n'est pas les papes de l'Église, on n'est pas les pasteurs vers qui tout remonte. On est au service. On porte une charge de serviteur, les amis. De sorte que tous grandissent, que tous croissent, que l'Église grandisse. On est au service là, en dessous. Et c'est cette vision du leadership qu'on veut vous transmettre. Quand il s'agit de reconnaître que quelqu'un est appelé, de reconnaître que quelqu'un... de le reconnaître dans ces dons-là, il s'agit de reconnaître qu'il est capable de se mettre au service de l'Église et non pas d'être le chef de l'Église. Il y a juste Christ qui est le chef. Et même lui, il nous a lavé les pieds. Nous a montré ce modèle-là de se mettre en dessous. Et donc quand on continue de regarder dans le Nouveau Testament, on a ce principe qu'on applique ici hein, de la pluralité d'anciens. D'accord ? Anciens ou pasteurs, vous allez trouver différentes traductions, mais c'est exactement le même mot qui est derrière, ils sont interchangeables. Et en fait, dans chaque église, on va trouver une pluralité sans hiérarchie, aucune, au niveau de cette équipe-là. On ne nous dit pas il y a un ancien particulier et puis d'autres anciens qui lui sont soumis. Non, il est question à chaque fois d'une pluralité d'anciens, même si ce fonctionnement il peut être OK aussi, hein, il peut s'entendre de manière raisonnable, dans la mesure où il y a une intersoumission quand même de toute l'équipe. Mais on trouve une pluralité donc, de pasteurs ou d'anciens. À Jérusalem, on voit plusieurs anciens dans Actes 15, 2. À Éphèse, plusieurs anciens dans Actes 20, 17. À Philippe, plusieurs anciens dans Philippiens 1, 1. À Antioche, plusieurs anciens dans Actes 11, 30. À Crète, plusieurs anciens dans Tite 1, 5. Paul et Barnabas y mettent en place plusieurs anciens dans chacune des villes qu'ils atteignent hein, dans leur premier voyage missionnaire, dans Actes 14, 23, on peut lire ça. Jacques, il s'attend aussi à ce qu'il y ait plusieurs anciens dans Jacques 5, 14. Et Pierre aussi, dans 1 Pierre 5, 1, 2. Je choisis volontairement de vous donner toutes ces références. Vous pourrez réécouter le message si vous voulez et aller relire ces références-là parce que c'est important de comprendre que la manière dont nous concevons l'architecture de l'Église doit être profondément biblique. On ne veut pas juste faire quelque chose qui tombe sous le bon sens humain. On veut faire quelque chose qui soit juste profondément biblique. Et la Bible, elle nous enseigne que l'autorité dans l'église locale, elle est portée par un groupe d'hommes qui fonctionnent ensemble, qui se soumettent les uns aux autres et qui avancent ensemble dans l'unité, écoutant Dieu par la prière pour conduire l'église dans la fidélité à Jésus et l'obéissance à sa mission. Ils ont le soin de toute l'église et il y en a certains des fois qui ont une délégation particulière pour faire d'autres choses, etc. Mais on ne va pas rentrer dans cette dimension-là. Et donc le rôle des anciens, je vais passer très très vite là-dessus, il est premièrement de définir la doctrine et les pratiques bibliques. Donc c'est le rôle des anciens de fixer finalement qu'est-ce que nous croyons dans le contexte local de cette communauté que la Bible dit sur tel sujet, sur tel sujet, sur tel sujet. Et on a besoin, nous, au niveau des anciens, de dégager plus de temps dans cette dimension-là. On a vraiment à cœur d'écrire sur des sujets qui peuvent être sensibles, sur des sujets qui peuvent être d'actualité, d'écrire, mais qu'est-ce que dit la parole sur ce sujet-là ? Et de fixer des points de doctrine comme ça au niveau de notre dimension de la communauté locale. Est-ce que ça veut dire que nous fixons une vérité absolue qui doit être enseignée dans toutes les églises ? Non. Il y a des points sur lesquels on ne sort pas. La divinité de Christ, le fait qu'il est mort et ressuscité, etc., etc. Il y a des points centraux sur lesquels, non, on ne dérogera pas, et c'est des choses qui sont fixes. Il y a des points qui sont beaucoup plus souples et qui vont peut-être être notre compréhension locale de ces points-là. Mais pour autant, on a besoin de temps pour les écrire et de fixer aussi ces pratiques et cette doctrine, de sorte, en fait, à ce qu'on n'avance pas n'importe comment, de sorte à ce qu'on ne se mette pas à tous croire plein de choses complètement différentes. Là, j'entends vraiment sur ce qui est essentiel, sur ce qui est central. Parce qu'après, bien sûr que dans l'Église, on a la liberté d'avoir différentes opinions, différentes vues, différentes interprétations. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il est important que sur un certain nombre de points, nous fixions les choses. C'est notre rôle, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait déjà, mais c'est ce qu'on va faire de manière plus visible. Le deuxième point, il est pour nous tous, c'est discipliner les membres de l'Église. C'est peut-être le truc le moins fun dans le rôle des anciens, mais qui pourtant est quelque chose de réel. Discipliner, ça veut juste dire reprendre quand il y a vraiment quelque chose qui déborde largement. Le principe de la discipline, il est pour tout le monde en fait, et par tout le monde. Les anciens ne sont pas les seuls à pratiquer la discipline dans l'Église. Nous tous, on peut se discipliner les uns les autres. On peut aller voir son frère, sa sœur et dire « Écoute là, j'ai vraiment à cœur de te partager quelque chose, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est pas juste. » Avec amour. Et c'est une forme de discipline, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une dimension de discipline ultime des membres de l'Église, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui refuse toute repentance, qui refuse de reconnaître alors que tout lui a été dit avec amour, patiemment, plusieurs fois, il y a une graduation qui est donnée dans la parole de Dieu et la graduation finale, c'est avec les anciens. Voilà notre rôle aussi. Et je vous avoue que c'est le rôle le moins fun de tous. Mais c'est un rôle qu'on prend aussi. Et comptez sur nous pour pratiquer la discipline qu'on estime nécessaire par protection pour l'Église et par amour de la parole de Dieu, tout simplement. Et de le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Et on veut grandir dans toutes ces choses-là. Le troisième point, c'est de démontrer un caractère pur. Les anciens, ils sont appelés à être des modèles. Pas qu'ils soient parfaits, on n'attend pas d'eux qu'ils soient parfaits pour pouvoir les nommer anciens, ou parce qu'ils sont anciens, ils sont parfaits, non. On pêche, on tombe, et la grâce de Dieu surabonde dans nos vies, comme dans la vie de n'importe qui d'autre. Mais je crois que c'est important, quand on veut nommer un leader dans l'Église, de reconnaître, en fait, que les uns et les autres puissent reconnaître que le caractère de ce leader, son comportement, sa manière de tenir sa maison, sa manière d'éduquer ses enfants, si c'est quelqu'un de marié, si c'est quelqu'un qui a des enfants, est juste. Et si le caractère est bon, ou si c'est quelqu'un de colérique, si c'est quelqu'un de sournois, si, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la dimension du caractère pur est importante. Le quatrième point, le rôle des anciens, c'est diriger l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les anciens qui dirigent, parce que Dieu va diriger au travers de chacun de nous. On peut avoir un enfant un jour qui se lève et qui donne une parole prophétique. Ce jour-là, il a dirigé l'Église, parce qu'elle était vraiment directive. Ce jour-là, il a dirigé l'Église, mais parce que les anciens ont dit « Ok, on reconnaît que le Seigneur est en train de parler là-dedans, et on va attraper cette parole et on va mettre l'Église en marche par rapport à cette parole. Donc la responsabilité reste aux anciens de diriger l'Église, mais n'importe qui d'entre nous dirigeons l'Église quand nous ouvrons notre bouche, quand nous faisons, quand nous menons des projets, quand nous avançons tout simplement. Voilà, donc soyons convaincus de ça, nous tous dirigeons l'Église et les anciens ont l'autorité au milieu de tout ça de dire ok, on choisit d'aller par là et ils sont redevables envers cette direction. Et enfin le cinquième point et dernier point du rôle des anciens, c'est de déléguer l'œuvre de l'Église. Et les anciens ne sont pas des hommes à tout faire, même si jusqu'à présent on était des fois des hommes à tout faire. Voilà, ceux qui connaissent nos agendas savent que oui, on fait énormément, y compris des choses qui sortent du cadre aujourd'hui du rôle de l'ancien. Et donc c'est important, et on est remis en question depuis quelques années déjà, sur cette dimension de déléguer davantage l'œuvre de l'Église. C'est dans la parole de Dieu. Les anciens sont encouragés à nommer, à transmettre, à multiplier les équipes, à confier des responsabilités qui soient à la fois très matérielles mais très spirituelles aussi à plein de personnes dans la communauté. Et on croit dans ce modèle et on le fait depuis longtemps. Mais dans la dimension du leadership, il nous semble qu'il y a un point de plus qui était nécessaire de passer, et notamment un maillon par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que dans le Nouveau Testament, on voit un modèle où il est question que Jésus a laissé des apôtres qui ont nommé des anciens qui eux-mêmes ont nommé des diacres. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dans notre Église, ce sont des diacres. Alors où sont les diacres? Où sont les diacres dans l'Église? Acte 6, 1 à 6 dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, c'est le cas qu'on trouve à Jérusalem, hein, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et dans l'église de Jérusalem, les anciens et les apôtres, ils avaient un dilemme. Servir les pauvres ou prêcher l'évangile. Et comme ils savaient que leur appel devait se concentrer sur la prédication de l'Évangile, ils ont pris cette décision-là de nommer des diacres. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, au milieu de cette Église. C'est ce qu'on croit qui est juste. Un diacre ou une diaconesse, c'est une personne qui est mûre spirituellement, qui est reconnue au sein de l'Église locale pour s'assurer que la mission de l'Église, c'est toujours cette dimension d'être en mission, que la mission de l'Église soit mise en œuvre. Et qu'est-ce qu'ils font les diacres? Eh bien, ils assurent tout le côté exécutif de l'Église, le côté organisationnel de l'Église, le côté pratique de l'Église, s'assurant que celle-ci, elle soit bien administrée et organisée. Mais, s'il y a un mais, les diacres ont une vraie autorité spirituelle dans l'Église. C'est vraiment une délégation de l'œuvre des anciens qui est faite sur les diacres. Et ce n'est pas juste une responsabilité d'organisation, c'est une responsabilité spirituelle sur notre communauté que nous voulons trouver au milieu d'une équipe de diacres que nous choisissons de nommer et de reconnaître. De reconnaître qu'ils ont une autorité particulière pour conduire l'Église dans la mission qui est la leur. Et donc le rôle des diacres, il y en a 3, le modèle qui nous est donné dans la parole, c'est beaucoup plus léger que le détail qui est fait sur les anciens qu'on va trouver dans la parole, mais pour autant, on trouve des choses qui sont similaires d'une partie à l'autre. Et on trouve 3 choses. Un caractère exemplaire, de la même manière que pour un ancien. Un caractère exemplaire. Deuxièmement, une vie marquée par le service. Qu'il soit déjà, en fait, un modèle de service. Et troisièmement, une capacité à exercer le leadership dans l'Église. C'est vraiment les 3 points qu'on va rechercher chez un diacre, son caractère, sa capacité à servir et sa capacité à être un leader dans ce service-là. Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a choisi de nommer une équipe de 5 diacres qu'on va nommer à la rentrée et qu'on veut vous soumettre. Parce qu'on a parlé du fait qu'il y a une dimension d'appel que nous on reconnaît sur 5 personnes, mais on a parlé aussi d'une dimension de reconnaissance. Et l'Église doit reconnaître ces diacres-là. Et je trouve que c'est un temps de réjouissance. C'est un passage particulier dans notre Église que de dire, mais pendant tant d'années, on a fonctionné sans diacre. Mais aujourd'hui, on a à cœur de se rapprocher du modèle biblique parce qu'on croit que c'est juste de fonctionner comme ça. Et pourquoi on veut nommer ? Eh bien, pour permettre aux anciens de se recentrer davantage sur leur rôle. On l'a dit tout à l'heure, on est un peu des anciens à tout faire aujourd'hui. On est des anciens diacres, en fait. Et on a besoin de se recentrer sur des parts du rôle de l'ancien que malheureusement on est obligé de négliger aujourd'hui parce qu'on consacre du temps sur autre chose. Il nous semble que c'est pas juste, parce que c'est pas biblique, tout simplement. Et il nous semble que c'est juste aussi de multiplier les leaders dans l'Église. Il nous semble que c'est juste de multiplier et d'encourager à ce que plus grandissent et prennent une dimension de leadership en vue qu'on puisse multiplier demain, en vue que on ait 3000 âmes qui soient ajoutées à l'Église demain, en vue qu'on choisisse d'aller implanter une église à côté ou au loin, ou qu'on choisisse d'envoyer des personnes parce qu'ils ont à cœur un projet d'implantation à un endroit ou de rejoindre une équipe qui implante ailleurs. L'Église, elle est vivante, elle est mouvante, et si on veut se préparer à ça, on doit multiplier les leaders reconnus au milieu de notre Église, appelés et reconnus. Et on croit que c'est profondément biblique et que c'est profondément juste. Et donc l'architecture de l'Église, elle se composera comme ça. L'architecture, elle se composera d'une équipe d'anciens, avec le rôle qu'on a évoqué tout à l'heure, puis d'une équipe de diacres qui va fonctionner vraiment en lien fort et en parallèle de cette équipe d'anciens, où les anciens ne seront pas dans l'équipe de diacres. Ça, c'est une très grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, on faisait les deux. Et puis ensuite, il y a toute la dimension de responsable d'activité dans toute l'Église et la dimension de service de chacun. Voilà, où on a les anciens, les diacres et toutes les activités qui sont gérées dans notre Église. Et on sait combien notre Église est riche de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et donc, on a choisi de nommer donc Henri, qui n'est pas là, Henri Bastian. On a choisi de nommer Mégane Domini, qui était là, mais qui, je pense, est aux enfants. On a choisi de nommer Nadine Courbeau, qui est là. On a choisi de nommer Sylvain, qui est là aussi, qui a fait l'effort. Merci Sylvain, tu ne devais pas être là. Et on a choisi de nommer Véronique B, qui est aussi en train de servir aux enfants en ce moment. Voilà les 5 personnes à qui on a demandé. Les 5 personnes sur qui on reconnaît ces 3 choses. Un caractère exemplaire, une capacité à servir et une capacité à exercer le leadership dans l'Église. Et on veut vraiment les encourager en tant qu'équipe naissante. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est vraiment avoir vos retours. On n'est pas en train de dire ce matin qu'on nomme et qu'on impose les mains tout de suite. C'est une question qui se travaille en Église. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer ces diacres-là à la rentrée, si vous êtes OK avec nous là-dessus. Et on voudrait laisser tout l'été pour que vous puissiez nous faire des retours sur ce sujet-là. Des retours peut-être de crainte, de négatif, y a des choses peut-être que nous on ne voit pas et que vous avez besoin de partager, eh ben, on sera OK pour entendre tout ça. Il n'y a aucun tabou dans ce qui est remonté. Mais aussi d'entendre des choses positives, des choses où vous venez confirmer, de dire mais il nous semble que c'est incroyablement juste et les 5 personnes que vous avez citées, on est à fond d'accord que bien sûr ce sont des diacres et ils le sont presque même déjà aujourd'hui, c'est juste qu'on ne leur a pas imposé les mains. On a besoin de ces retours-là parce que c'est une histoire d'Église. Et le but de tout ça, c'est qu'on soit une église en marche, qu'on soit une église vivante, qu'on soit une église en mission. L'objectif de multiplier ses leaders, c'est ça. OK ? Et là, je refais le point avec la Pentecôte pour que, en tant que communauté, on se lève et que plein de l'Esprit Saint, on annonce l'Évangile et qu'on voit une moisson d'âmes au milieu de notre assemblée. Qu'on voit une église en croissance, pas juste pour que l'église soit en croissance, mais parce qu'elle est le signe d'un peuple qui loue Dieu de manière de plus en plus nombreuses. C'est ça qu'on veut. Amen.
Amen.
Merci pour votre amen spontané cette fois-ci.